Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le Perek Yudbet, Bezrat Hashem Yitbarer, chapitre 12, qui parle du Benoni. Donc le chapitre 12 est un chapitre central, comme on a expliqué la semaine dernière, puisque le deuxième nom du Tanya, c'est le Sefer, chez le Benonim, le livre des Benonim, puisque finalement le but du Tanya, c'est que ce serait bien qu'on arrive tous à devenir des Benoni. Alors comme on a expliqué, c'est vrai que quand on commence le Tanya et qu'on dit à quelqu'un « tu vas devenir quelqu'un de moyen », on n'aime pas ce mot-là non, aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut être au top. Seulement, quand on commence à étudier le Tanya et qu'on comprend qu'un tzaddik, il faut être naître tzaddik et que si on n'est pas tzaddik, comme on a expliqué longuement, on ne le saura jamais. Et que finalement, comme on a des tentations de Averot, on est finalement quelque part des rachats vetovlo, c'est-à-dire des bons rachats. Alors, on a expliqué la semaine dernière que c'est quoi le Benoni. Le Benoni, c'est une personne qui est comme nous, c'est-à-dire qui a des pulsions exactement comme nous. Seulement, la seule différence, c'est que concrètement, au niveau de pensée, parole, action, il ne se laisse jamais faire. Allez, raboter, on va commencer là. Allez, parce que, vous savez, le matériel, le spirituel.
Bah, ouais. Voilà.
Non, j'ai dit à Marcel Aspenage, j'ai dit, il faut réduire le matériel comme ça.
J'ai réduit, hein.
Voilà.
Il y a plus de pistache, mais du spirituel.
Après, le spirituel, il a du mal à décoller.
La prochaine, ce sera des assiettes.
Vide.
Des photos de qu'est-ce que tu vas manger.
Ah, t'as amené la rissa, t'as amené la...
Non, la rissa vient de...
Ah, viens là-bas.
Non.
Allez. Alors, on a expliqué, donc dans le chapitre 12, on a commencé à expliquer que finalement, le personnage du Benoni est une personne qui est exactement comme nous. Ça veut dire qu'il a des pulsions exactement comme nous, il a des pensées exactement comme nous. Seulement, la seule différence, c'est quoi? C'est que au niveau de la pensée, la parole et l'action, il faut jamais. C'est-à-dire, dès qu'il a une pensée tordue qui lui tombe dans la tête, ça veut dire qu'il en a des pensées tordues, tout de suite il la repousse. Dès qu'il a une envie de dire un lashon hara, tout de suite il la repousse. Dès qu'il a une envie de faire une bêtise, tout de suite il la repousse. Donc finalement, le Benoni, il a un combat constant dans sa vie. Et on a expliqué que d'une certaine manière, il est d'un niveau qui est beaucoup plus fort que le tzaddik, parce que le tzaddik, il n'a pas de combat. Le tzaddik, il avance. Mais quand une personne comme un Benoni, qui a un combat constant, on verra dans la suite, dans le chapitre suivant, que des fois il y a des Benoni qui se retrouvent toute leur vie à se battre sur les mêmes choses. Parce que le Yetzer Hara, il s'arrête pas.
Sur la même chose.
Même problème. Et toute la vie, tous les jours, il bute sur le même problème. Et à chaque fois, il se retient, et ça, c'est le Benoni. Et ça, on expliquera pourquoi Akadosh Baruch Hu, quel plaisir à Akadosh Baruch Hu de ça. Ça, on va expliquer dans la suite. Alors, on a posé une question la semaine dernière.
Beaucoup, alors.
On s'est arrêté sur ça, pas du tout, Alvaï. Alors, le Benoni, il faute jamais. Il veut fauter, mais il faute jamais. Alors on a posé la question, plusieurs ont posé la question la semaine dernière. Bon, Monsieur Benita n'est plus là.
Il veut fauter.
Attends, on va expliquer.
C'est beau, ça. Il veut fauter, il n'arrive pas.
Hey. Ah non, c'est.
Non. Il veut fauter, mais il faute pas. J'ai pas dit ça.
Non, mais il veut fauter, mais il n'arrive pas.
Donc on est en train de dire que le Benoni, c'est celui qui veut fauter comme nous, mais que concrètement il se retient et il ne faute pas. Alors, la question qu'on se pose quand on lit tout ça, c'est on se dit, mais c'est pas possible, c'est un Superman, ça. C'est impossible. Parce que, de se dire que tous les jours, t'es confronté à un challenge, et tous les jours, tu dois surmonter ce challenge, on se dit, c'est pas possible, c'est impossible. À un moment, c'est comme quand tu te lances dans une affaire. On peut accepter, par exemple, que 2, 3 premières années, peut-être même 5 premières années, 10 premières années, d'accord? Allez, messieurs, asseyez-vous, c'est Tania maintenant. C'est quoi ça? Allez, non, stop, ça. Rangez-moi ces pitotes, là, rangez-moi ces trucs-là. Voilà.
J'ai pas eu temps de manger.
Mange.
Approche-toi. Ça, on est en train de faire. Vas-y, amène-leur les boulettes de falafel.
Alors. Avec plaisir, fichoui.
Mange prochaine barbecue. Extérieur.
Alors, non, avec plaisir, en bonne santé.
Mais, avec la clim.
Donc, je reprends. On a posé la question à Stanley. Plusieurs ont posé la question. Michael, M. Benita, etc. Ils ont posé la question. Ils ont dit, mais c'est pas possible. C'est un Superman. C'est impossible, ça, pour nous. C'est impossible. Parce que, regardez, quand par exemple, on se lance dans une affaire. C'est accepter que, par exemple, les 2, 3 premières années, 5 premières années, même 10 premières années vont être difficiles. Mais comment tu te consoles? Tu te consoles en te disant que c'est vrai que je galère au début, je gagne pas beaucoup d'argent, c'est très difficile, on doit travailler beaucoup. Mais qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te rassures? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bon, un jour, dans quelques années, ça ira mieux, et là, ça va tourner. D'accord? Donc ça, c'est ce qui te permet de tenir. Mais quand tu parles à un Benoni, le Benoni vient voir son Rav, il lui dit, voilà, Rav, il arrête pas, ça fait 10 ans. Et ben, qu'est-ce que lui répond le Rav? Il lui dit, ben, il dit, ça fait 10 ans qu'il t'embête, mais ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. C'est impossible, il va craquer. Comment il tient? Comment c'est possible? Techniquement, comment c'est possible d'être infaillible? Personne n'est infaillible. Comment tu peux me dire que le Benoni, il veut fauter, mais concrètement, il ne faute jamais. D'accord? Comment c'est possible? Alors, on a expliqué la semaine dernière, on a commencé à expliquer qu'en vérité, la clé de la réponse se trouve dans la biologie de notre corps. Dans la biologie. À Kadosh Baruch Hu, dans notre corps, il nous a donné un outil extraordinaire qu'on va développer aujourd'hui. D'accord? Serge, approche-toi. Il nous a donné un outil extraordinaire et qu'avec cet outil, si on veut casser son Yetzara, on peut le faire dans tous les cas sans aucun problème. Vous êtes prêts? C'est bon? Vous êtes servis? On peut commencer? Alors.
Il y a beaucoup des béonies.
Des béonies, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui sait.
Mais on les reconnaît comment alors?
Il n'y a que Dieu qui les reconnaît.
Et le béonie, il les reconnaît
ou dévoilés?
C'est des gens, parce qu'il n'y a que Dieu qui les connaît.
Mandy, ils sont comme les salines cachées ou dévoilées?
Dieu et eux-mêmes. Sans courant, tu peux en gros.
Comme j'ai expliqué la semaine dernière, je donne un exemple. Après, on va rentrer dans le texte. J'ai dit, c'est comme si par exemple, tu vois quelqu'un qui est ultra religieux. Et nous, quand on le voit par exemple en train, toute la journée, en train de faire des mitzvot, en train d'étudier la Torah. Bon, nous, on se dit, bah, celui-là, il n'a pas dit Yetzarara. On se doute même pas une seule seconde que dans sa tête, au fond de lui, ça boue. Encore plus qu'une personne, encore plus que nous. Mais personne ne le saura. À part lui et Akadosh Baruch Hu, personne ne le saura. Ni ses élèves, ni sa femme, ni ses enfants. Personne ne le saura, c'est entre lui et Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Benoni, c'est pas comme le tzaddik qui va récolter les fleurs. On va dire, ah, tzaddik, kol hakavod, on vous demande des brachot. Personne va venir lui demander des brachot. C'est un combat intérieur et personnel. Et on va expliquer plus tard qu'est-ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on soit comme ça. La question sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est concrètement et physiquement, comment c'est possible de pas craquer? Comment il fait le Benoni pour pas craquer? C'est pas possible. Comment tu peux te battre tous les jours pour la même chose et tu sais que toute ta vie tu vas te battre sur la même chose? Comment tu fais pour pas craquer? Comment tu fais pour tenir? Comment c'est possible? D'accord? C'est pas possible. Alors on va essayer d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le corps humain qui fait qu'on peut tenir. Il reste des taniers encore là-bas et des lignes. Pour ceux qui n'ont pas. Alors on est à la page. Tiens, je n'utilise pas celui-là. Page 168. Okay.
En bas aussi?
168, en haut de la page. Page 168, et dans le Tania rouge, je ne sais pas quelle page on est. Page 32 en bas de la page. Alors on y va. Rak seulement, mipne, shelo, levado. Shelo, lo, levado, mishpat, amelucha, vamshala, ba'ir, et no yachaloti, tavato, mikor, à la poêle, et l'iklabesh, bevaragou, vmasse, dibon, marchal, vamash. Ça, je l'explique à l'oral. Qu'en vérité, c'est vrai que le Benoni veut fauter, mais comme le Yitzhara n'est pas le seul maître à bord, et que, il y a aussi un Yetzer Tov, un bon penchant qui est là. Alors, dès que le Yetzer Hara lui envoie une pulsion, pac, il arrête. Ça, c'est la seule marge de libre-arbitre qu'on a. Et je reviens au sujet de la semaine dernière. C'est la seule marge de libre-arbitre qu'on a. Je ne peux pas décider est-ce que j'aurai des mauvaises pensées qui vont venir à la tête. Je ne peux pas décider est-ce que je serai coléreux ou pas. Je ne peux pas décider ça. Par contre, ce que je peux décider, c'est une fois que la situation arrive devant moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse aller ou est-ce que je me reprends? Et des fois, c'est une décision qu'on a à prendre en une fraction de seconde. Et des fois, comme je vais expliquer dans la suite, des fois, hein, on peut avoir une action qu'on est en train de faire, hein, que ça fait plusieurs minutes qu'on est en train de faire l'action, une avéra, sans se rendre compte. Je donne un exemple. Vous êtes assis autour de la table de Shabbat, vous discutez. Sans se rendre compte, ça veut dire que la chanara. Vous croyez que vous vous rendez compte tout de suite? Des fois, on se rend pas compte. Des fois, on continue à parler de longues minutes longuement. Et c'est seulement plusieurs minutes après que tu dis, mais mince, on fait du la chanara, là.
Il y a plus
tard
que ça.
Et là, le problème, c'est que c'est juteux. Et là, le Yetzer Hara, il dit, ah, tu peux t'arrêter maintenant. Surtout qu'il y a toujours, il dit, surtout qu'il t'as cette information qui arrive. Dès qu'il y a des détails croquants qui arrivent, tu vas pas t'arrêter.
T'as déjà commencé
en plus. Et c'est là qu'on te dit attention. Jusqu'à maintenant, c'était pas une avéra. Parce que tu t'es pas rendu compte. En tout cas, c'est une avéra sans faire exprès. C'est maintenant que va être ton test. Est-ce que tu te retiens? Je dis stop, on s'arrête là. Alors ça peut être pour une pensée aussi. Je me lance dans une pensée pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs secondes, pac! D'accord?
C'est dire stop.
Ah bah oui, c'est très difficile, surtout quand t'as déjà commencé. Quand t'as déjà commencé. Plus t'es avancé, plus tu dois t'arrêter. Pensée, parole, action. Donc c'est ce qu'il dit ici, que le Benoni peut s'arrêter. Alors là, ça amplifie encore plus notre question. Ça veut dire que finalement, le Benoni, pas seulement qu'il a le même challenge tous les jours, un challenge très compliqué, en plus, des fois, il doit se reprendre alors qu'il est déjà en cours. Mais c'est impossible. Et qu'est-ce que tu me dis? Il en rate pas une, à chaque fois il se retient. Mais comment il fait? C'est pas possible. C'est impossible de se retenir.
Dans ce que tu es en train de dire ici, tu vas essayer d'expliquer tout le processus qui va le motiver à prendre une décision pour dire non, je fais pas.
On va expliquer pourquoi il peut le faire. Pourquoi il peut être déjà en train de le faire et il peut dire je m'arrête, je ne le fais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Il analyse le contexte.
Mais c'est quoi? Tu prends conscience à ce moment-là?
Alors on va expliquer. Quel est l'outil que Dieu a donné à tout homme? Qu'il n'a pas donné aux animaux, qu'il n'a pas donné aux anges, qu'il a donné uniquement aux hommes. D'accord? Regardez. Très simple.
Mais
ça change pas. Pourquoi un animal n'a pas la connaissance du bien et du mal? Bien sûr qu'ils ont ça. Bien sûr. Les animaux ont la connaissance. Regardez. Il y a une définition. Parce que tout le reste, d'accord, tout le reste, les animaux l'ont. Les animaux sont capables de voir le bien et le mal. D'accord? On connaît plein d'histoires avec des animaux qui sont capables de voir quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien. Les animaux voient les anges, les animaux voient les forces du mal, d'accord? Les animaux mangent comme nous, ils boivent comme nous, ils dorment comme nous, ils sentent il y a des animaux qui sont bons, il y a des animaux qui sont pas bons. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez un homme qui fait que n'importe quel homme, même s'il a un caractère pourri, et même s'il est déjà en train de faire la avéra, s'il veut se retenir, il peut se retenir. Non? Les anges aussi, on l'aime. D'accord? On va voir, il va nous donner une définition biologique. Qui est applicable pour tout le monde, pour les juifs comme pour les non-juifs. Pourquoi? Parce que sinon, on peut punir personne. S'il n'y a pas ce critère-là pour les juifs et pour les non-juifs, on peut punir personne. Alors regardez ce qu'il dit ici. La seule chose que l'homme a qui lui permet de maîtriser, qui a Moar Shalit à la lèvre. Le Zohar nous dit ça en 5 mots. Mais nous, on va prendre plus que 5 mots pour le développer. Le Zohar dit, dans Parashat Pinchas, il dit que, instinctivement, le Moar, le cerveau, Shalit à la lèvre, d'accord? Le cerveau domine le cœur. Ça veut dire, Dieu a créé un système dans le corps humain qui fait que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, notre cerveau domine notre cœur. Moar Shalit à la lèvre. Romo, etc.
Il y a des appels du fond.
Il en a fait un peu plus que la semaine dernière.
C'est la capacité à.
Alors. Qui a Moar Shalit à la lèvre. Il faut qu'on développe ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Dieu nous a donné. Il faut qu'on analyse ces mots-là. D'abord, c'est quoi Moar? Moar en hébreu, c'est le cerveau. Lèvre, c'est quoi? C'est le cœur. Shalit. Shalit, ça veut dire quoi? Dominer, maîtriser. Le cerveau domine le cœur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que représente le cœur? Le cœur, c'est les pulsions. C'est le fait que je me laisse aller. C'est un symbole, hein, bien sûr. Ça veut pas dire qu'il y a des pulsions dans le cœur. C'est un symbole. Le cœur symbolise les pulsions, c'est-à-dire les choses qu'on fait naturellement et qu'on se laisse aller. Alors, on peut avoir des bonnes pulsions comme des mauvaises pulsions. Vous venez, par exemple, à un gala, comme le gala de Tivat Hashem, par exemple. Je suis venu au gala, je comptais donner tant. Et quand il y a une bonne ambiance, etc., avec un projet qui me parle, etc., ou bien que Hashem, je dis un peu les chayim et que ma neshama est éveillée, alors je me laisse aller, je dis bon, je vais donner plus que ce que j'avais prévu. Ça, c'est une pulsion positive, mais c'est une pulsion.
C'est positif. D'accord? C'est positif dans un sens et négatif dans l'autre.
Alors, c'est positif. Il y a des pulsions positives, il y a des pulsions négatives, c'est pas un problème ça. Mais c'est une pulsion. Une pulsion, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas calculé, qui n'est pas réfléchi. Le problème, tant que c'est pour le bien, ça va. Je vais pour acheter un loulav, je comptais acheter un loulav à 30 euros, je ressors avec un loulav à 100 euros. Pourquoi pas? Pas de problème, quoi. La cavotte, c'est une belle pulsion. Je me suis laissé aller. Mais il y a des pulsions négatives. Et là, la pulsion négative, je dis, écoute, je me suis laissé aller, j'ai fauté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là qu'on te dit, non, ça marche pas comme ça. Moar Shalit à la lèvre, ça veut dire que, instinctivement, le cerveau domine le cœur. Ça veut dire que Dieu a créé une nature chez un homme, n'importe quel homme, que s'il le veut, son cerveau, sa raison, peut dominer son cœur.
Divine, tu veux dire, elle peut dominer le...
Ça n'a rien à voir avec divine, pas divine. Ça, c'est quelque chose de biologique.
C'est la raison.
C'est quelque chose qui se trouve dans le corps de tout homme, même chez un non-juif. Ça n'a rien à voir avec le juif. D'accord? Même un non-juif, tout le monde a ça. Dieu, ce qu'il a donné à l'homme, qui n'a pas donné aux animaux, et qui n'a donné à personne, même pas aux anges, non, il a donné aux anges la raison. Les anges ont la raison. Mais ce qu'il a donné aux hommes, qu'il n'a pas donné aux anges, c'est la capacité que la raison peut dominer, d'accord, les sentiments. Ça, il a donné qu'aux hommes. Il n'y a que les hommes qui ont ça. Et même d'ailleurs, un enfant ne l'a pas encore. C'est pour ça d'ailleurs qu'un enfant ne peut pas être jugé. Pourquoi un enfant ne peut pas être jugé? Pourquoi Minadine, un enfant ne peut pas être jugé? Parce qu'un enfant, son cerveau ne domine pas son cœur. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas encore évolué. D'ailleurs, vous savez que on dit que la bar mitzvah, c'est à 13 ans, d'accord? Et après, il est chayav, après, par rapport au din, d'accord, par rapport au dinim d'en bas, il va être chayav à 100% seulement à partir de l'âge de 20 ans.
Il y a
20 ans, d'accord? Il y a une première phase, c'est 13 ans, première phase de responsabilité. Deuxième phase, c'est 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère que jusqu'à 20 ans, le cerveau n'est pas encore évolué à 100%. Non, 13 ans, il est déjà évolué, c'est clair. Il a l'âme divine qui vient. Mais quelque part, son cerveau n'est pas encore évolué à 100%, donc on peut toujours lui trouver des circonstances atténuantes. On peut pas dire que son cerveau domine à 100% son cœur. Pour que le cerveau domine le cœur, ça veut dire que le cerveau doit être développé. Un bébé, il n'a pas un cerveau qui est développé, donc il n'est pas capable de dominer son cœur. Ça, c'est l'outil que Dieu nous a donné. Il nous a appris, s'il vous plaît, on va avancer un petit peu. Il nous a appris au fil des générations, au fil des années, à faire en sorte que le cerveau, la raison, domine le cœur. Maintenant, c'est très compliqué. Quand je dis dominer, ça ne veut pas dire que c'est facile. Je n'ai pas dit ça. Ça peut être très compliqué. Surtout quand ça récidive tous les jours. C'est très compliqué. Mais c'est possible. C'est possible. Pourquoi ? Parce que c'est une nature que Dieu a faite. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que vous avez un moteur qui est très compliqué à démarrer, mais vous savez que quand vous le démarrez, il marche. C'est tout. Ça marche. C'est quoi ce moteur ? La capacité du cerveau à dominer les pulsions. Je vais lire encore 2-3 lignes, après on fait une pause pour les questions. Qui a moar chalit à la lèvre, donc retenez ces 5 mots, car le cerveau domine le cœur, que moche ketou bezoar parachat pintras, comme c'est écrit dans le zoar parachat pintras, betol dato, veteva yetirato. Alors regardez les 3 mots qu'il rajoute, très important. Il dit, le fait que le cerveau domine le cœur, c'est pas, ça vient pas suite à un travail que tu peux faire ou ne pas faire, non. Betol dato, de série, dès la naissance, de nature, on a un homme a en lui cette nature, que le cerveau peut dominer et donc doit dominer le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est une nature. Veteva yetzirato, c'est la nature même de la création de l'homme.
C'est inné.
C'est inné. Et ça, c'est la particularité principale de l'homme. D'ailleurs, comment on appelle l'homme en hébreu? On dit medaber. On dit qu'il y a 4 catégories. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Comment on appelle l'homme en hébreu? Medaber. Celui qui parle. Pourquoi? Il n'y a pas les animaux qui parlent? D'accord.
Ils ont une communication, non.
Les anges ne parlent pas.
Les ménages, ils parlent.
Mais d'abord, ça veut dire être capable de décider ce que je parle, ce que je ne parle pas. Un animal, quand il voit une proie devant lui et qu'il décide de la manger, il ne peut pas se retenir de la manger. L'animal ne peut pas se retenir. Une fois qu'il a eu la pulsion, je veux prendre cette proie, personne ne pourra l'arrêter. Ni même lui, personne ne peut l'arrêter. Il a une pulsion, il est obligé de se laisser aller. Parce que et pourtant, il y a des animaux intelligents, enfin, qui ont une forme d'intelligence. Il y a des animaux intelligents, oui. Comme le renard, etc. et tout. Mais on dit que même un animal intelligent, son intelligence est limitée, d'accord, par rapport à ses pulsions. C'est-à-dire que le jour où ce renard-là, il a une pulsion tordue, eh ben, même son cerveau pourra pas le retenir. Son cerveau, enfin, son intelligence, on va appeler ça comme ça. C'est pas une vraie intelligence comme nous, mais son intelligence pourra pas le retenir. Pourquoi? Parce que la seule personne à qui Dieu a donné cette chance que le cerveau domine le cœur, c'est l'homme. D'accord? Donc, on va en faire encore deux petites lignes. Shekar notzar à Adam betol dato. Ainsi, l'homme a été créé betol dato. Dès sa création, dès son origine, depuis Adam Arishon, c'est comme ça. Shekol Adam yachol. Que chaque homme peut. S'il le veut, mais il peut. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais il peut. Birtsono chez Memocho. Avec la volonté qui se trouve chez Memocho dans son cerveau. Alors, il fait bien préciser ici la volonté qu'il y a dans le cerveau. Pourquoi? Parce qu'une pulsion, quelque part, c'est une volonté aussi. D'accord? Mais c'est pas dans le cerveau. Une pulsion, c'est une volonté qui est, je suis poussé à faire quelque chose. C'est pas une volonté qui est maîtrisée. Alors que la volonté qu'il y a dans le cerveau, c'est une volonté qui est maîtrisée, que je maîtrise. D'accord? Donc
c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Une volonté, c'est quelque chose.
Non, mais
sens.
Attends.
Comment ça s'appelle? Que je pousse. Une pulsion, c'est quelque chose que je peux pas.
Mais ça s'appelle. Ça s'appelle.
Je te donne un exemple.
Michael, ça s'appelle un réflexe. C'est un réflexe.
Imagine-toi par exemple quelqu'un qui fume beaucoup et qui décide d'arrêter de fumer.
Ah non.
D'accord.
Ah
non. Pendant tous ces mois dans lesquels il se bat contre la cigarette, est-ce qu'il veut fumer?
Bien sûr.
Bien sûr qu'il veut fumer. Il a envie de fumer. Il veut fumer.
Mais il se met.
Donc il a une volonté. Mais cette volonté, d'où elle vient? Elle vient de sa pulsion. Il a une pulsion qui le pousse à vouloir fumer. Concrètement,
non mais c'est pareil.
Concrètement, il ne fume pas. Pourquoi il ne fume pas? Parce qu'il a la volonté de son cerveau qui lui a dit c'est pas bien pour toi, il faut que tu arrêtes. Donc la volonté du cerveau a été plus forte que la volonté du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très compliqué parce qu'en général, on se laisse aller par le cœur.
Quand il y a deux questions par rapport à la volonté. Toi, tu avais dit que dans un des cours que la volonté était localisée dans le foie. Et là, tu dis qu'elle est localisée aussi dans le cerveau. Donc, il y a deux types de volonté. Alors, une 120. Qu'on peut dominer et une qu'on ne peut pas dominer.
C'est l'origine de la volonté qui est dans le foie, mais je ne rentre pas dedans là.
Mais alors, maintenant.
C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Bon, c'était. Le foie, non, on va en parler après.
Quand quelqu'un veut faire tchouva, d'où l'étincelle, d'où elle vient? Elle vient du cerveau, il n'y a jamais de cœur.
Parce que pour qu'une teshuva puisse être efficace et durer dans le temps et définitive, il faut qu'il y ait un processus rationnel, logique qui l'amène.
Une teshuva peut démarrer du cœur.
Et qu'il soit dominé.
Je comprends ce que
la
question.
La domination, elle est toujours là. Donc la rationalité, tout le raisonnement, l'analyse qu'il va faire, elle va émerger que du cerveau.
Une teshuva peut venir du cœur. On a vu des gens, par exemple, qui sont venus voir le rabbi ou qui sont venus voir d'autres tzadikim. Voilà. Ils sont venus voir d'autres tzadikim. Et ils ont eu une pulsion positive. Mais comme vous avez bien remarqué, cette pulsion positive peut être couverte et écrasée par une autre pulsion négative. Parce que c'est pas, pourquoi? Parce que c'est pas le ratson chez ma mémoire. Le ratson, la volonté qu'il y a dans le cerveau.
Et en plus, t'as toujours dit que les gens, ils font plein de choses.
Ouais, ouais, parce qu'ils veulent rattraper.
Parce que, voilà. Parce que c'est une pulsion. C'est pas construit avec le cerveau. Ok? Encore d'autres questions? Oui?
Le mémoire peut dominer le cerveau, mais il peut pas combler le manque.
Le mémoire peut dominer le cœur.
Le cœur, mais il peut pas combler le manque.
Non, il peut pas combler le manque.
Il n'y a rien qui peut combler.
Rien.
C'est pour ça que ça revient à chaque fois.
C'est pour ça que c'est très dur.
C'est le combat.
C'est pour ça que c'est dur. C'est très dur. Le bénonite, c'est une souffrance qui vit. Parce qu'on comblera jamais le manque. Jamais il comblera ce manque.
Tu as parlé. C'est un type en totale addiction toute sa vie.
Non, ça veut dire que voilà. Ça veut dire que même si tu vas lui dire, viens étudier la Torah, viens faire autre chose, jamais il retrouvera dans la Torah et dans le positif le plaisir qu'il a raté dans le négatif. C'est une guerre. Mais il peut le faire. Sa pulsion, son cerveau peut dominer ses pulsions. Mais c'est très compliqué, c'est très très dur. On a donné l'exemple de la cigarette, on va donner plein d'exemples. D'accord? Une personne, par exemple, voilà. Tout ce qui est addictif.
En fait, tu es en train d'écrire une souffrance, là.
Ah, c'est une souffrance.
Mais.
Imagine-toi quelqu'un, par exemple, qui est dans les affaires. Quelqu'un qui est dans les affaires et qui sait que pour une petite arnaque qu'il va faire, il peut gagner un gros paquet d'argent. Et que des fois, franchement, des fois, ça peut passer très facilement. Dans les affaires. Ça peut passer. Ça peut passer facilement. C'est un combat avec son Yetzer Hara. Parce que tu comprends, qu'est-ce qu'elle lui dit sa pulsion? Sa pulsion lui dit, écoute, tu sais, il y a les vacances qui arrivent, c'est bientôt le mois d'août, tu sais, le mois d'août ça coûte très très cher. Et le Yetzer Hara commence à parler, c'est une pulsion. Et t'as envie de te dire, bon, ça va, on ferme les yeux et Dieu il fermera les yeux. Comme ça on a envie de se dire. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de... Il ferme jamais les yeux, Akadosh Baruch Hu. Je vais raconter une anecdote que j'ai lu cet après-midi. Une fois,
il peut détourner le regard, c'est tout.
Il peut. Écoutez l'histoire, une histoire magnifique. Une fois, c'était pendant à l'époque de la, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait un jeune qui était apparemment avant un jeune yeshiva, un jeune baruch yeshiva, qui était apparemment assez religieux, qui est venu voir son rav pendant la guerre et qui lui a dit, Rabbi, je suis pilote dans l'armée de l'air. Alors je ne sais pas s'il était chez les Britanniques ou chez qui il était, et il dit tous les jours, on va bombarder les Allemands, etc. Et donc, je pense qu'on fait des mitzvot, parce que grâce à ça, on sauve des Juifs. Le rabbi lui dit, Kol HaKavod, bravo pour ce que tu fais. Alors, il lui dit, vous savez, ça nous arrive souvent de travailler Shabbat aussi, parce que même le Shabbat, les Allemands travaillent, nous aussi, on doit travailler Shabbat. Bon, le rabbi dit rien. Après, quand il lui dit, vous savez, après, quand l'avion, il atterrit, après le Shabbat, des fois, ça m'arrive de sortir une cigarette. Je me dis, ça va, avec, je fais tellement mes sirop de tefèche, que Dieu, il ferme les yeux pour une cigarette. Alors, c'est ce que, alors, écoutez bien ce que le rabbi a répondu. Hein? Pendant Shabbat. Parce que comme dans sa tête, il était déjà dans l'avion. Alors, il dit, bon, je suis déjà dans l'avion, j'ai déjà pris l'avion maintenant. On a fait un bon chiffre, on a Baruch HaShem supprimé pas mal de problèmes. D'accord? Alors, Baruch HaShem, bon, on se lâche un petit peu, prends une cigarette. Alors, son rabbi lui a répondu comme ça. Son rabbi lui a répondu, il a dit, quand tu vas arriver en haut, il y aura deux livres. Il y aura un livre, il y aura écrit tes mitzvot. Un livre, il y aura écrit tes avérot. Dans le livre des mitzvot, il y aura écrit toutes les mitzvot que tu as fait, même le Shabbat, tous les Allemands, etc. Il y aura écrit. Mais il y aura un autre livre dans lequel il y aura écrit toutes les cigarettes que tu as pris Shabbat. Ça veut dire, ce qu'il voulait lui montrer, c'est qu'il y a deux comptes. Ne crois pas que parce que tu as fait un truc, ça justifie un autre truc. Ça y est pas. Et ça, c'est le Benoni, finalement. Le Benoni, il est conscient qu'il y a deux comptes et que, tu vas dire, mais ça va, toute l'année, il arrête pas. Dieu peut pas fermer les yeux une seconde. Oui, pas de problème, il te punira pas. Mais il y a deux comptes. Il y a un compte pour ça, un compte pour ça, et le compte, il sera pas blanc. Il y aura une trace. Donc, ça, c'est le bon ennemi. Donc.
Le but dans la vie, c'est d'évoluer.
Ah, bonne question. Là, on n'a pas encore expliqué quel est le but du bon ennemi. Là, pour l'instant, son but, c'est de pas fauter.
Et j'ai deux façons de pas fauter. Soit en connaissance de la faute, parce que ça me dégoûte. Je l'ai pratiqué, elle me dégoûte, je la fais plus. Soit je me bats avec l'envie tout le temps de faire la même faute.
Donc, ça veut dire que tu la connais. Si tu te bats avec l'envie, ça veut dire que tu la connais.
Non, écoute, ce qu'il va expliquer, c'est une bonne question. Là, on touche à une autre question. Une autre question. Qui est, est-ce qu'il y a des techniques pour s'en sortir? Pour faire en sorte que j'arrête de me battre pour les mêmes choses.
La boisson.
On verra plus tard. Ça, c'est chapitre 14 et 15. Il va expliquer que pour certaines choses, oui. Pour d'autres choses, non. Il va expliquer pourquoi pour certaines choses, pour d'autres choses, non. Je ne veux pas vacler, donc on va... De toute façon, on va y arriver, Bézrat Hachem, dans pas longtemps. D'autres questions ?
Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de 20 ans. Qu'est-ce qui détermine justement cet âge ?
20 ans, c'est une sorte de maturité.
Mais elle est arrêtée comment ?
C'est arrêté par le Rahamim. Ouais, que...
Ils estiment que c'est ça.
Même dans la Torah, les Lévites ont commencé à les compter de 20 à 50 ans.
On considère que 20 ans, il y a une maturité.
Je ne sais pas si par moi,
en fin de compte, l'histoire du Rome du Bénin, le jeu du Bénin,
c'est pas de parcourir toute cette durée en faisant sans arrêt des balances, de se dire, bon, j'ai fait ces petites avérotes, mais je fais aussi ces mitzvot. Et sans arrêt, à chaque fois, il y a des choses.
Non, c'est pas ça le Benoni. Non, c'est pas ça le Benoni. C'est un rachat, ça. Benoni,
le rachat, il fait pas les
Benoni. Non, c'est ce qu'on a expliqué dans les cours d'avant. Le Benoni, dans la pratique de tous les jours, il ne fait aucune avéra. 0%. Seulement, il veut les faire.
Il est toujours.
Et c'est pour ça qu'il appelle Benoni, parce que le tzaddik ne veut même pas les faire. Et concrètement, il les fait pas. Mais c'est encore plus dur, ça, parce qu'il veut les faire. C'est horrible. Comment il fait pour se retenir? Parce que le cerveau domine le cœur, par définition. Et ça, c'est une notion qui reviendra plusieurs fois dans le Tanya, parce que si on n'a pas cette définition-là, c'est la notion de la décision, la notion de la volonté, mais la volonté dans le cœur, la volonté, pardon, dans l'esprit, pas la volonté dans le cœur. Si on n'a pas ça, on pourra ni être puni pour la verrote qu'on fait, ni être récompensé pour la mitzvot qu'on fait.
Alors?
Bah oui. Parce que pourquoi tu me récompenses?
Il y a des prolongations, il y a quoi?
Non, justement. Si tu dis que tu me récompenses, ça veut dire que tu penses que c'est moi qui ai géré la situation. Quoi? Si tu me punis, c'est que tu penses que j'aurais pu gérer la situation. Un animal, on pourra jamais punir un lion. Pourquoi il a déchiqueté un homme? Pourquoi on peut pas le punir? Parce qu'il pouvait pas se maîtriser.
Non, ça dépend de l'homme.
Alors que l'homme, l'homme aussi, c'est sa nature. Et les gens, c'est leur nature d'être coléreux, d'être nerveux, de vouloir cogner tout le monde. C'est leur nature.
Mais l'homme,
Dieu l'a donné. Un élément en plus, c'est qu'il a un outil qui peut écraser sa nature.
Il doit se corriger, lui, comme un homme.
Je sais pas.
Il doit se corriger.
Alors, encore une fois, tu utilises un terme qui est pas facile. Tu utilises le terme corriger. C'est pas forcément qu'on arrive à se corriger. On arrive à se retenir. Oui, mais c'est sa question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Benoni, des fois, c'est possible qu'il n'arrivera jamais à corriger certains défauts. Mais il apprendra à se retenir. Tu vois la nuance entre corriger et retenir? C'est très compliqué. Parce que quand on arrive à corriger.
Retenir d'être coléreux, c'est...
Quand tu corriges, tu refais.
Tu corriges.
T'as plus l'envie, on va dire.
Si tu veux, mais c'est pas une corrige. Il a pas corrigé le problème. Il a appris à vivre avec et il a appris à se retenir.
Il a appris à maîtriser.
Il a appris à maîtriser. Mais il l'a pas corrigé.
Il a pas calmé.
Tu te corriges.
Il a pas calmé.
Non, mais c'est-à-dire quand ça arrive, il le calme.
Ouais, c'est bon ? Ok. Alors, on continue.
Donc, le moar, il y a que les humains qui l'ont.
Oui.
Les moars, ils n'ont pas.
Non, les malachim, ils ont un moar, mais leur moar ne peut pas dominer leur cœur, leur pulsion.
Ils n'ont pas de pulsion, les malachim.
Si, ils ont des pulsions.
C'est Dieu qui leur met la
ils ont des pulsions. Ils ont des pulsions qui sont positives, mais ils ont des pulsions. Une pulsion, ce n'est pas forcément négatif. Une pulsion, c'est par exemple une personne qui se lève un matin.
Est-ce que le Yetzer Hara, c'est un malach?
Non, mais je te donne un exemple. Imagine une personne se lève un matin et il dit, j'ai envie de faire une folie, je vais aller à la yeshiva aujourd'hui maintenant. Je vais passer toute la semaine à la yeshiva. Ouais. Maintenant, il a une femme, il a des enfants, le bonhomme, etc. Il faut ramener l'argent à la fin de la semaine. Il dit, je fais une folie. C'est une pulsion positive, ça. Seulement, comme il a un cerveau, je lui dis, calme-toi, il faut travailler maintenant. Il faut ramener l'argent. C'est-à-dire que c'est une pulsion qui peut être positive. Enfin, positive, oui, c'est-à-dire qu'il veut étudier la Torah. Alors pareil, tu vois, l'ange, il peut partir des fois dans des... Mais l'ange, il sait que quand Akadosh Baruch Hu l'a dit quelque chose, il doit le faire. Il est programmé pour le faire. Parce qu'il n'est pas capable, quand il veut quelque chose, de ne pas le faire. C'est impossible. Il n'y a que l'homme qui est capable de vouloir faire quelque chose et de ne pas le faire. Ça veut dire que finalement, la seule chose que je maîtrise en moi, c'est cette petite volonté qui fait que c'est moi qui aura le dernier mot. Voilà, si on devait résumer en un mot, c'est tout. Tout le reste, je maîtrise rien du tout. Ni avec qui je me marie, ni dans quelle vie je vis, d'accord? Ni quelles sont les pulsions qui te montent dans la tête, ni quelles sont les paroles que j'ai envie de dire. Je maîtrise rien du tout. La seule chose que je maîtrise, c'est que c'est moi qui aurai le dernier mot. Et c'est moi qui déciderai ce qu'on le fait ou ce qu'on le fait pas. C'est tout. C'est très compliqué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très difficile quand on te met devant le fait accompli, on dit oui, mais tu pouvais te retenir. Ah, bah, bien sûr. Mais tu l'as retiré, tiré pour.
C'est quand on juge après coup.
Oui, ouais, voilà. Tu comprends? Ça veut dire que les chiens, ils sont déjà lâchés, et tu dis oui, mais t'avais la laisse, tu pouvais les attraper. Mais ils sont déjà à plein feu, et tu dis il fallait les attraper. C'est très compliqué.
Mais c'est pas marqué dans Bereshit, Dieu, il dit à Caïn, le péché, il est là à ta porte.
Il est là à ta porte. Il n'y a pas où aller, il est là.
Oui.
Mais toi, tu dois le contenir.
Évidemment. Donc, il est là. Donc, il est là à ta porte.
Oui. Ça veut dire, on peut pas dire qu'il est pas là. On n'est pas des. Il est là, Hachem, il l'a mis là.
Chez le tzaddik, il n'est pas là.
Oui, bah alors il a eu un bonus.
Oui.
Il n'a aucun mérite là-dessus.
Sur ça, il n'a pas de mérite. Il aura d'autres mérites. Bon, on va continuer.
Donc, il
a d'autres buts. Le tzaddik, il est plus en haut qu'en bas.
Ça ne l'intéresse pas.
Oui, voilà,
mais bien sûr qu'il est là. Tu peux pas.
Ça n'intéresse pas.
Il a eu un piston.
Le tzaddik, quand il voit une femme passer, il voit pas la femme.
Il a eu une drogue.
Il voit une neshama qui passe.
Il n'a pas d'arrière-pensée.
Il n'a pas de. C'est un rapport avec nous. On peut pas comparer. C'est autre chose, c'est une autre gamme. Bon, maintenant, concrètement, comment fait le Benoni? Imaginons par exemple, puisque j'ai parlé des femmes, imaginons par exemple que le Benoni, il marche dans la rue, et il a une pensée tordue qui lui tombe dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait?
Il la repousse.
Alors, comment il la repousse? Comment tu repousses une pensée?
Je pense à autre chose.
Alors qu'est-ce qu'il fait?
Je pense à des choses...
Est-ce qu'il se dit, c'est assourd, il faut que je m'arrête? Qu'est-ce qu'il dit?
Il doit se raccrocher à des... soit des alarpotes, soit des pratiques purement religieuses pour...
Mais comment il fait pour s'arrêter? C'est quoi la technique qu'il faut pour s'arrêter? Elle va nous donner la technique.
Il s'arrête et il réfléchit.
Alors, ça c'est la force du cerveau. Le cerveau, non seulement il peut décider, c'est lui qui va donner le dernier mot, à savoir est-ce que je fais la chose ou est-ce que je ne fais pas, mais c'est lui aussi qui va décider dans quel état d'esprit je serai. Vous me suivez? Je vais expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire que, par exemple, si une personne, il a son yitzhara qui lui envoie, pack, une pulsion négative.
Est-ce que je suis candidat ou pas?
Et qu'il est dans un état d'esprit négatif. Eh bien, avec son cerveau, numéro 1, il va décider de zapper, de penser à autre chose. Numéro 2, il va décider de se plonger dans autre chose. Ça, c'est le cerveau. Personne ne peut décider à ma place. C'est moi qui décide dans quoi je me plonge, dans quoi je vais mettre ma tête. Ça, c'est la deuxième qualité du cerveau. Est-ce que vous remarquez la nuance? Je répète. Parce qu'il y a une nuance très importante là, parce qu'on va aller, il y a une nuance très importante qui aura beaucoup de répercussions dans la suite. Le cerveau est capable de faire deux choses. Numéro un, de dire le dernier mot pour ne pas faire quelque chose. Numéro deux, de réussir à mettre dans un état d'esprit pour plonger dans autre chose. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'arrêter une mauvaise pensée si je ne plonge pas dans autre chose. C'est impossible. Si par exemple j'ai une mauvaise pensée qui tombe dans la tête et que j'ai envie de me dire ouais c'est assourd, c'est pas bien. Le fait même de penser c'est pas bien, ça veut dire qu'elle retombe, elle est là. Ça sert à rien. C'est une perte de temps de se battre avec la pensée.
Mais
elle est là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire? Tu dis mais je maîtrise, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement?
Tu dois détourner.
Donc je suis obligé de passer à la phase B du cerveau. C'est quoi la phase B du cerveau? C'est que c'est lui qui va décider à quoi je pense. Donc je vais me forcer pendant quelques secondes, quelques minutes à penser à autre chose. Et après ça va partir. D'accord? Mickaël, t'es avec nous?
C'est ce qu'on fait tous, hein.
Ellie, pardon.
Oui. Ça, c'est ça,
oui. Il fait chaud, on allume la clim?
Non, c'est
prêt. Et pas caché, hein.
Ouais, déjà, c'est Ben David.
Si?
Ça fait 2 Mickaël Ben David.
Oui, je sais. C'est révélateur. Bon. Donc, chez Carte, notre son, vous avez dans les mots? On va prendre dans les mots.
Chez Carte, en bas.
Chez Carte,
c'est très bas, c'est très grave en bas, en 68.
C'est
ainsi que l'homme fut créé.
Chez Carte, notre tsar à Adam, ainsi a été créé l'homme et Toldato dans sa nature. Chez Kol Adam Yachol, que tout homme peut. Birtsono, chez Bemocho, avec la volonté du cerveau, comme on a expliqué longuement. Leit Apek, il peut se retenir. Et pas seulement se retenir, velimshol et dominer. Beruar ta'avato chez Bedibo, il peut dominer l'esprit de la pulsion et du désir qu'il a dans son cœur. Il peut le faire. Chez Lo les malot Michelot Libo, il peut décider concrètement de ne pas accomplir la demande et la pulsion de son cœur. Bemaase, Dibo ou Marshava. Ni en action, ni en parole et ni en pensée. La pensée c'est le plus dur. Parce que la pensée c'est quelque chose qui m'accompagne constamment. Pourquoi? Parce que c'est très facile. Quand une personne par exemple vient de faire une action, imaginez par exemple que j'ai une pensée qui me dit prends cette bouteille de coca et jette-la par terre. Comment je me retiens? Ben, je me retiens, je mets ma main dans ma poche. Je me retiens de ne pas bouger ma main. C'est relativement facile. C'est-à-dire que je peux me retenir facilement. La parole, pareil aussi. Je me retiens, je ferme ma bouche. C'est tout. Mais la pensée, c'est très dur.
Mais attends, j'ai envie de dire quelque chose. Alors, tu parlais de la chenara tout à l'heure.
Tu as raison.
Voilà, je vais et je la ravale.
Je ferme ma bouche.
Mais la pensée, elle est là.
Ah, justement, j'arrive à la pensée. C'est pour ça que j'ai dit que la pensée, c'est le plus dur pour le Benoni. Pourquoi c'est le plus dur? Parce que la pensée, c'est quelque chose qui est très difficile à retenir. L'action, je me retiens, je mets ma main dans la poche. D'accord? La parole, je ferme ma bouche. Même si c'est dur, mais la bouche est fermée. Tant que la bouche est fermée, il n'y a pas de chose qui sortira. Mais la pensée, ça fonctionne. Le cerveau ne s'arrête jamais. Quand je dors, quand je suis réveillé, le cerveau ne s'arrête jamais. D'ailleurs, si Dieu préserve, il s'arrête, c'est fini. Il s'arrête jamais le cerveau. Alors comment tu fais? Et ça, c'est le plus dur pour le Benoni. Parce que le Yetzara te lâche pas. Et quand tu crois que c'est et tu penses autre chose, pac, il te le remet dans la tête. Il te lâche pas. Alors justement, qu'est-ce qu'il va faire le Benoni?
Et en plus, la pensée, c'est pas nécessairement une pulsion.
Oui,
il faut bien sûr.
Ou la siyar. C'est pas forcément une pulsion, non. Ou la siyar d'ato les gamre mita avot libo, elle est faire les gamre. Donc qu'est-ce que va faire le Benoni? Le Benoni, voilà la technique qu'il nous donne ici. Comment repousser une pensée par une autre pensée? Elle allait faire les gamrés. Il va aller dans une pensée qui est complètement contradictoire. Mais c'est un combat. C'est un combat qui est très compliqué. Mais on est obligé de faire ce combat-là. D'ailleurs, en passant, il expliquera plus tard, le Tania, il dit, il y a des gens, des fois, hein, quand ils ont une pensée négative qui leur tombe dans la tête, ils veulent commencer à négocier. C'est-à-dire quoi, négocier? Ça veut dire s'expliquer comment c'est pas bien de penser à ça, et comment en vérité ils gagnent rien à faire ça, et comment en vérité ils gagnent rien à faire ça. Ils commencent à négocier, ils commencent à expliquer. Et là-bas, le Tania va expliquer plus tard, il dit que ça marche pas. Ça, c'est un piège du Yetzara, parce que le Yetzara, il veut une chose. Il veut que ta tête soit occupée avec ça. Parce que quand la tête est occupée avec des excréments, eh ben, on devient un excrément. Le Yetzara veut juste une chose. Il sait pas de problème. Pense dans n'importe quelle forme. Ce qui compte, c'est que tu y penses. Et après, une fois que tu y penses, tu te dis, oh, finalement, hein, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Tu relativises.
Ah oui, parce que si je suis en train de me battre avec mon Yetzara, dire, mais attends, c'est pas bien, la Vera, elle va m'amener plus de mal que de bien. Le Yetzara, il va dire, mais attends, t'as rien compris. Et je te montre que c'est les plaisirs. T'as rien compris. C'est rien du tout. Laisse tomber. Et qui tu vas répondre? Il faut pas négocier. Surtout pas négocier. Il faut directement passer au contraire et ne pas négocier. On parle pas. Même pas pour faire tes chouvas. Même pas, il va dire, tu t'imagines comment c'est grave ce que j'ai fait. Vous savez ce qu'il va expliquer plus tard, Tania? Il dit que même se mettre à penser à la gravité de la vera que j'ai fait. Imaginez par exemple, vous êtes en pleine journée, je sais pas, à 14h comme ça, 14h34, et vous vous mettez à penser à la vera que vous avez fait la veille. Mais c'est grave ce que j'ai fait hier.
Non, mais ça s'appelle des remords.
C'est un piège du Yetzara pour vous faire tomber.
C'est un remords.
Parce que c'est chouette aussi.
D'accord. Pourquoi? Du style, ah, bah, si on le recommençait.
Ah non, pas du
tout. Non, bah, c'est un piège. Tu crois que tu dis, mais c'est bien, je fais tes chouva, c'est magnifique. Faux. C'est faux.
C'est ce que t'as dit il y a deux semaines.
Eh oui, c'est faux, c'est un piège. C'est un piège. D'accord.
Il faut plus y penser.
Il faut pas y penser. Il faut avancer.
Voilà,
mais
il y a des moments pour tes chouva, comme le mois des louls, comme certains moments définis.
Fais pas la même faute.
Ah, d'accord.
Peut-être déranger le CDR là-dedans, mais en amont, il y a un comportement candidat, des fois, à la Vera, dès le départ. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va la voir qu'on va la désirer. Des fois, on est déjà en train de se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais trouver comme un Vera? Il y a ça.
Le Benoni n'en est pas là. Le Benoni, il essaie déjà de maîtriser les pulsions qu'il a.
Non, parce qu'on est très souvent en chasse. Excusez-moi, hein, on est tous des hommes. Il y a pas d'enfer, on est très souvent en chasse de la Vera, en train de se dire, si elle se présente... Je sais pas, on verra.
Ouais,
donc on est candidat. Oui, ben alors il faut le dire.
Voilà.
On est candidat.
Bon, alors maintenant, je entends ce que vous dites. On va développer.
Ben oui, parce que c'est important.
Comment? Alors maintenant, qu'est-ce que fait le Benoni? Est-ce que d'après vous, le Benoni, quand il veut repousser une pensée, il va la repousser forcément en pensant à un Dvar Torah? Pas forcément.
Non.
Pas forcément. Si par exemple il est attiré par la science et qu'il voit qu'il y a une pensée tordue qui lui tombe dans la tête d'une femme ou du je ne sais quoi, il va ouvrir une revue scientifique. Il va se mettre à lire. Peu importe l'outil qu'il va utiliser, ce qui compte, c'est qu'il faut que son cerveau pense à autre chose. D'accord? D'ailleurs, la preuve c'est quoi? C'est que si par exemple une personne, il a une pensée tordue qui lui tombe dans les toilettes.
Oui.
Bah oui, il n'a pas le droit de penser à la Torah. Il te dit, c'est pas grave. Il te dit, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois penser maintenant à autre chose. Ou bifrat, et surtout, si c'est possible, elle s'adapte à Kedusha. Si tu peux faire en sorte que l'autre pensée, c'est une pensée de Kedusha, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que, pourquoi une pensée de Kedusha? Parce que la Kedusha a une force spéciale. La Kedusha, c'est une bombe atomique. Ça veut dire, c'est comme si tu as une grande lumière qui peut repousser beaucoup d'obscurité. Tu comprends? Quand tu ouvres ta revue scientifique, bon, le Yetzara, il va dire, mais fais pas le poids ta revue scientifique, hein, moi je te présente des vrais trucs. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sortais baratin avec ta revue scientifique? Alors, la Kedusha a cette force, comme on va expliquer du roi Salomon, qui dit qu'elle a cette force d'écraser le mal. Du moins temporairement. Voilà pourquoi, quand on a une pensée tordue qui nous tombe dans la tête, il faut toujours essayer de penser à un petit Dvar Torah. Et c'est pour ça que chez les Chassidim, on a toujours l'habitude, depuis le plus jeune âge, même mes enfants, déjà, à leur âge, ils apprennent déjà, d'apprendre des mots de Torah par cœur. Des Mishnayot par cœur, du Tania par cœur, des choses comme ça. Comme ça, on dit que dès qu'il y a une pensée tordue qui tombe dans la tête, un truc comme ça, tu te répètes tout de suite dans la tête des mots de Torah. Et le fait même de se répéter les mots de Torah, ça enlève la pensée. Alors, on aurait pu penser à autre chose. Il aurait pu penser à un jeu qu'il a joué la veille, il aurait pu penser à autre chose. Seulement, la Torah a une force spéciale qui est nulle part ailleurs.
Les gens qui disent que pour repousser une avéra ou plutôt une mauvaise pensée,
tu dois avoir la photo du tzaddik face à toi.
Pourquoi pas, c'est la kedusha, oui, bien sûr. Comme Yosef a tzaddik. Qu'il a eu l'image de son père, c'est là. La photo d'un tzaddik. On dit que Yosef a tzaddik, quand il allait fauter avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a retenu? Il a dit, il y a eu l'image de son père qui lui est revenu devant sa tête, et c'est là qu'il n'a pas fauté. Et là, on dit chez Chassidim que le fait même de s'imaginer, pas forcément la photo, hein, en passant à venir, hein, le fait même de s'imaginer le visage d'un tzaddik, ça même, ça peut combattre les tzaddik. Le fait même de s'imaginer le visage d'un tzaddik.
Il avait commencé à fauter,
Yosef? Oui, il avait commencé à fauter, oui.
Il a failli fauter.
Ouais. Il a failli fauter, oui. Rachid dit clairement, il dit qu'il s'est retenu parce qu'il a vu l'image de son père.
Oui, et tu dis que
d'ailleurs, je rajoute sur la photo, vous savez qu'on dit que la photo d'un tzaddik, c'est comme l'ombre d'un tzaddik. C'est pour ça que dans une photo d'un tzaddik, il y a une kedusha. On dit que la photo d'un tzaddik, c'est comme, c'est pas l'ombre, on appelle ça l'ombre de l'ombre, ce qu'on appelle bavoua des bavoua.
D'accord.
Ah, sérieusement, il y a quelque chose. Tu sais, une fois, il y a une histoire. Une fois, une histoire avec.
Mais, s'il vous plaît, les amis, juste... mais ce qu'il raconte, c'est un peu. C'est pas... Je sais bien que ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit que ça avait à voir. Mais c'est un peu limite.
Pourquoi tu crois que dans les maisons, les chambres des enfants et que même dans les maisons, dans les salons, on met des photos de tzadikim pour s'entourer de Kedusha? Parce que les choses comme ça, ça protège. De la même manière que quand les communicants, quand tu vas dehors dans la rue, qu'on te met des pubs tordues pour te mettre dans l'ambiance de l'été, d'accord? Ben ça te met dans l'ambiance de l'été.
Combien tu as de personnes?
Ça marche dans le mal, Calva Romain, ça marche dans le bien.
Quand tu rentres et qu'ils voient une mezouza, ils embrassent, ils mettent la tête 5 fois, 10 fois comme ça. Combien tu vois de personnes qui font ça? Alors est-ce que c'est. Ce que tu penses, c'est-à-dire à Vodazara ou de la bêtise ou...
Non, c'est ça.
Mendy, t'as vu aux États-Unis les albums là où tu mets les autocollants des chacun des rabbins?
Ouais, c'est Panini.
Pourquoi pas, c'est bien?
C'est Rabbi Panini.
Au lieu de faire avec Messi et je sais pas qui.
Rabbi Panini, ils ont fait.
Non, ça va pas.
Et ça, ils font ça avec les joueurs de foot, non?
Oui,
on va faire ça avec Benzema.
Ah bon,
et...
on a collectionné ça aussi en 78.
Oui, les footballs.
Tu sais, sache que quand ils ont lancé cette idée d'album de photos de tzaddikim, il y a eu en Israël, il y a eu plusieurs avis. Il y en a qui ont dit que c'est un manque de respect. Parce que tu comprends, ils changent les photos. Et après, pour mettre la photo, tu vois, t'appuies bien comme ça, etc. Mais après, les rabbinim, aujourd'hui, tous les rabbinim ont perdu. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont compris que concrètement, c'est une réponse qu'on a dans la Kedusha à des choses qu'il y a dans le mal.
Ça va.
Dans le mal, pas dans le mal, mais enfin, dans les choses de ce monde-ci.
Ça va au-delà de la photo.
Au lieu qu'ils échangent des photos de joueurs de foot, ils vont échanger des photos de tzaddikim. Donc ils voient les tzaddikim. Imagine, il dit, moi j'ai rabbi un tel, moi j'ai rabbi un tel, et on échange.
Et ils jouent dans quelle équipe?
Et il y avait carte rare, c'est rabbi un tel.
Il est goal ou joueur?
Ça marche.
Ah, c'est lui le goal.
Mais toi, t'as pas étudié, t'es quand même.
C'est une guerre?
Non, mais même c'est que la.
C'est impossible. Non, c'est impossible. Le cerveau domine.
Après, il marche pendant Shabbat avec le rabbi
Mouna. Oui.
Il faisait pour la retourner.
Il voulait pas. Il voulait pas s'arrêter.
Ça veut dire que la Torah, c'est pas magique.
La Torah, ça t'aide, mais sans la décision, tu peux rien faire. C'est pas magique.
Pour les
retourner, il fallait taper dessus. Oui, je sais. C'est vrai. Allez, on y va.
169.
Le problème qu'ils avaient parlé, les rabbinim, c'est que dans les images, ils étaient en général pile, il fallait taper comme ça, hop. Et avec des tourbillons dans l'air, hop, ça retombait sur pile, ça retombait sur face. Pile face.
Et si ça restait en l'air, c'était un rare.
Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a ça dans tous les milieux, Chabad, Lituaniens, tous font ça avec les photos de Tzadikim. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça permet aux enfants d'être baignés dans l'esprit de Kedusha.
Mais comme tu le
Alors après bon, ils ont le côté de la Maharavi, ils ont la tombe de Rachel, ils ont ce que tu veux. Peu importe les images qu'on met. Ce qui compte, c'est qu'ils sont dans un esprit de Kedusha.
C'est éducatif, déjà.
Bien sûr.
Mais quand bien même, ça fait penser à autre chose, déjà.
Exactement. Donc je reprends. Concrètement, qu'est-ce que fait le Benoni? Le Benoni, il a une pulsion tordue qui lui vient à la tête. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? En urgence, il faut qu'il enlève cette pensée de sa tête. Comment il enlève cette pensée de sa tête? D'accord? Il faut envoyer une autre pensée. Peu importe la pensée. Ça peut être une pensée de science, une pensée d'informatique, de ce qu'il veut. Il pense ce qu'il veut, mais il faut une autre pensée. Seulement, on lui conseille d'utiliser une pensée de Torah. Pourquoi? Parce que comme on va expliquer tout de suite dans les mots, la pensée de Torah a cette force d'écraser plus rapidement le Yetzer Hara. Donc c'est pour ça qu'on lui conseille d'avoir une pensée de Torah.
Et par l'action, non, le fait de décider d'aller voir un malade à un hôpital ou de...
Ah, mais entre temps, le cerveau fonctionne. C'est pas immédiat. Il faut que je dise immédiat. Tout de suite.
pourquoi pas, si, si ça marche, ouais, ça marche, pourquoi pas. Il n'y a pas de formule magique, chacun il se connaît. Ce qui compte, c'est qu'il faut penser à autre chose.
Le chemin, ça va
te revenir. Ouais. Ok. Que dire-t-il comme c'est écrit? Alors pourquoi il nous dit que, pourquoi il nous dit qu'il y a une particularité, qu'il faut essayer d'avoir une pensée de Kedusha? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Kedusha? Donc là, il va expliquer. Que dire-t-il comme c'est écrit? Vous avez dans les mots? Alors on est à la page.
C'est un mieux.
Ok, 169. Vera iti, le roi Salomon dit, j'ai vu. Sheyesh itron la chokhma mina sikhlut ke itron haor mina choshech. Le roi Salomon dit, j'ai vu, moi, Salomon, le plus intelligent des hommes, que l'intelligence est mieux que la bêtise, comme la lumière est mieux que l'obscurité. On a envie de dire, bravo, le roi Salomon. D'accord?
C'est évident.
C'est évident.
La palisse.
D'accord? C'est évident que la lumière, c'est mieux que l'obscurité, et c'est évident que l'intelligence est mieux que la bêtise. Qu'est-ce qu'il voulait dire le roi Salomon? C'est quoi la grande chorma de Shlomo HaMelech? Alors, en vérité, ce qui est expliqué ici, c'est que quand Shlomo HaMelech a dit, Vera iti sheesh itron la chorma mina sikhlut, quand il a dit, j'ai vu, moi, que la lumière est mieux que l'obscurité et que l'intelligence est mieux que la bêtise, tout le monde sait que l'intelligence est mieux que la bêtise. Il voulait en vérité nous donner une technique. Il te dit, tu es dans la bêtise. Qu'est-ce qui peut repousser la bêtise? C'est l'intelligence. De la même manière, quand tu es dans l'obscurité, qu'est-ce qui peut repousser l'obscurité? C'est la lumière. Je vais donner un exemple. D'accord? Exact, mais plus que ça. On donne un exemple qui va amener plus tard. Il va dire, tu es dans une pièce obscure. Noire absolue. Tu vas allumer une toute petite bougie. Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, ça va éclairer. C'est une petite bougie. Maintenant, t'as beau te battre avec l'obscurité, t'as beau te dire, non, mais on va se battre, on va se débrouiller. Ça ne vaudra pas une toute petite bougie que tu vas amener. Et ça, c'est l'exemple que le roi Salomon amène. Il dit, de la même manière qu'on voit clairement qu'il n'y a pas photo, on peut le dire, entre la lumière et l'obscurité, et que quand tu as une petite lumière, tout de suite, ça peut repousser beaucoup d'obscurité, et bien de la même manière, quand tu es occupé par une bêtise, quand ton cerveau est occupé par une bêtise, par quelque chose de pas caché, alors tu peux t'occuper par une autre bêtise, ou une autre chose qui n'est pas une bêtise, qui est neutre, comme penser à la science, ce que tu veux. Mais il n'y a rien de mieux que quelque chose d'intelligent, la chorma, et la chorma c'est quoi? C'est la Torah. Pour te repousser la bêtise. Voilà le sens profond de ce que le roi Salomon voulait dire.
Et là, c'est une question. Si vraiment la lumière c'est mieux que l'obscurité, pourquoi le bon Dieu il a fait tout l'univers avec une matière qui s'appelle la matière noire?
Ça
n'existe
pas.
Non, bien sûr, ça existe. Il a raison.
Pour avoir la lumière, il faut l'obscurité.
Je sais pas qui vous a raconté ça, mais dans le Zohar, il parle clairement de Ouhman et Oura, la lumière noire. On va en parler après, ça. Ça, c'est pas le thème du tout d'aujourd'hui. Ah, même noir, pas après, c'est bien après, c'est dans...
Noir pour qui?
Quoi?
Noir pour qui?
Non, il a raison. Oui, quand tu te mets par exemple, quand tu te mets par exemple devant le néon, d'accord? Je mets mon œil devant le néon, qu'est-ce que je vais voir?
Du noir. Parce que trop de lumière...
Je vais voir du noir, quand je vais voir du noir, il y a trop de lumière.
Un excès de lumière.
Bah, et je vais voir du noir, c'est-à-dire quand je... Essaye d'ouvrir les yeux devant le néon, qu'est-ce que vous allez voir? Du noir. Comment c'est possible? Quand tu vois du noir, essaye, tu vas voir, essaye de manger toi, tu vas voir. Prends une méthode dans la lumière.
C'est une surimpression.
Bon, je garde pas d'opticien, ça va, mais alors.
Non, mais c'est pas que tu vois du noir, c'est que.
C'est une surimpression de la rétine.
Donc tu vois du noir. Non, il y a Inyan Altikabala, ça. Mais bon. Donc, que dire-t-il? Pirouche, ça veut dire, dans les mots. Kemoshaor, Yeshlo, Itron, Ushlita, Umamshala, La Rocher. De la même manière que, naturellement, si on dit que. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que quand tu es dans une pièce obscure, tu vas allumer la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, la pièce va s'éclairer. Ça veut dire qu'en vérité, il y avait une guerre entre la lumière et l'obscurité, mais c'est une guerre que la lumière gagne tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'obscurité, c'est un challenge. Alors, tu peux dire, je vais gagner la guerre de l'obscurité, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, en essayant avec mes mains de toucher, de voir où est la sortie, tu peux gagner cette guerre d'une autre manière. Mais la guerre n'est pas gagnée. C'est pas sûr que c'est gagné. Il y a une chose que tu es sûr que tu vas gagner la guerre. Quand tu allumes la lumière. Quand tu allumes la lumière, à tous les coups, ça gagne la guerre contre l'obscurité. C'est ce que le roi Salomon voulait dire. De la même manière, quand tu allumes la lumière, à tous les coups, la guerre est gagnée contre l'obscurité. Et bien, de la même manière, quand tu as une bêtise que le Yetzer a tombé dans la tête, la meilleure technique que tu peux avoir, c'est quoi? C'est penser à un Dvar Torah. C'est comme la lumière qui va repousser l'obscurité. Alors, des fois, l'obscurité peut être tellement profonde qu'il faut beaucoup de lumière. C'est possible, ça. Il y a une notion d'obscurité épaisse. L'obscurité noire. Bon, il faut plus, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, la Torah par rapport à la bêtise a la même force que la lumière a par rapport à l'obscurité. Et c'est quoi la force que la lumière a par rapport à l'obscurité? C'est qu'elle gagne la guerre d'emblée, d'office. D'accord? Donc, il n'y a pas de guerre. C'est pour ça qu'on savait, on dit ça c'est l'approche du Baal Shem Tov par rapport à d'autres approches. Il y avait d'autres approches qui disaient, quand une personne fait une avéra, il faut venir, il faut le défoncer. Il faut lui dire que la avéra qu'il fait c'est très grave et qu'il va finir au Gehinnom et que c'est très très grave. Et le Baal Shem Tov, quand il est venu, il a dit, je suis pas d'accord. Il a dit, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il a dit, quand on travaille comme ça, quand tu as une personne qui a fait des avérotes et qu'on va le mettre à le sermonner, à le déchirer, qu'est-ce qui va se passer? Tu te bats avec l'obscurité. Ça veut dire que tu te bats avec l'obscurité, d'accord? Tu te bats par l'obscurité contre l'obscurité. Tu restes dans l'obscurité. Donc tu lui dis, tu vas finir, mais bonhomme, il est déjà dans l'enfer. Qu'est-ce que tu lui parles d'enfer? Il est déjà dans l'enfer. Tu lui dis, il va finir en enfer, mais il est déjà dans l'enfer maintenant. Ça lui parle pas ce que tu racontes. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la surenchère. Parce que tu comprends, après on dit, mais tu comprends, le Gehinnom, on commence à être dans des superlatifs, etc. Qu'est-ce que c'est le Gehinnom? Baal Shem Tov va dire, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, pourquoi avoir besoin de faire une guerre quand il y a des guerres qui peuvent se gagner naturellement, automatiquement d'office? Il dit, allez voir les Am Israël. Allez leur raconter la beauté du Am Israël. Comment un Kadosh Baruch Hu apprécie leur Tehillim, comment un Kadosh Baruch Hu apprécie leur Tfilot. Mettez-leur un peu de lumière dans la vie. Et naturellement, la lumière que vous allez mettre dans la vie va repousser l'obscurité. Et ils en ont beaucoup d'obscurité. Va repousser l'obscurité. Et c'est comme ça qu'il faisait le Baal Shem Tov. Il venait dans des villages avec des gens qui faisaient beaucoup d'avérotes parce qu'ils étaient illettrés, etc. Il venait les voir. Il leur dit, vous avez une grande neshama. Ouvrez vos Tehillim. Lisez un Tehillim. Lisez une ligne de Tehillim. Lisez un mot de Tehillim. Akadosh Baruch Hu, il adore votre filote. Et le bonhomme, tu comprends, il rentre à la maison, il est fier. Il dit à sa femme, tu t'imagines, il y a un rabbin qui est venu aujourd'hui et qui a dit que Dieu est content de ma ligne de Tehillim que j'ai lu avec plein de fautes. Le bonhomme, il est heureux. Tu lui as mis de la lumière dans sa vie. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. C'est ce qu'il te dit ici. Ce qu'il y a de particulier dans la lumière qui repousse beaucoup d'obscurité, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Tu gagnes tout seul. La victoire se fait toute seule. Dès que tu mets de la lumière, automatiquement l'obscurité s'en va. L'obscurité est chassée. C'est la même chose. Il dit, quand le Benoni est là, il a une pensée tordue qui lui tombe dans la tête. Il peut, s'il veut, penser à autre chose. En mode guerre, se forcer à penser à autre chose. Mais il dit, mais pourquoi tu rentres dans la guerre? Étudie un Dvar Torah. Parce que le Dvar Torah, cette capacité, comme la lumière qui repousse l'obscurité. Que quand on étudie un Dvar Torah, c'est cette capacité que tu peux gagner sans guerre. Tu allumes la lumière, automatiquement l'obscurité s'en va, sans guerre, mais Eilav ou même Eilav, de lui-même, automatiquement.
Il y en a qui veulent pas repousser l'obscurité.
Tu as raison, il faut le libre arbitre pour ça. Mais il te donne des techniques.
Il y en a qui veulent pas.
Il te donne des techniques. N'oubliez pas que c'est pour ça qu'on a expliqué la semaine dernière que le Benoni, des fois, il peut rester des heures à faire cette fille-là. Parce que voilà, parce qu'il sent que cette fille-là, c'est comme cette lumière qui repousse l'obscurité. Mais automatiquement. Quand t'as pris, il va aller dans la vie de tous les jours, c'est la guerre. Mais quand t'es en mode, la fille-là, c'est la lumière qui repousse l'obscurité. C'est comme quand t'es devant un tzaddik, t'arrives devant un tzaddik. Il y a une tellement grande lumière, que quand le tzaddik te balance une avéra dans la tête, même pas il essaye, parce que, ça te parle même pas. C'est l'obscurité,
Il n'y a pas d'avéra.
Quelle avéra? Le tzaddik, il essaye même pas. Pourquoi il essaye pas? Parce qu'il y a une tellement grande lumière, que l'obscurité ne tient pas devant. Et ben, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. On doit essayer de mettre un maximum de lumière dans notre vie, pour essayer de faire en sorte à repousser l'obscurité. Ça, c'est l'approche de la Chassidout en général, et surtout l'approche Rabbad. Quand on voit quelqu'un qui est très très loin de la Torah, et il y a des rachats. Peut-être pas des rachats comme à l'époque, mais il y a des rachats. Quand tu vas le voir, d'accord? Le bonhomme, si tu vas le voir, tu lui dis, ouais, tu travailles Shabbat, t'es marié avec une Goya, etc., tu lui racontes des trucs, d'accord? Tu vas le déchirer. Mais c'est pas comme ça. C'est Shalom. Le Baal Shem Tov te dit, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Le Baal Shem Tov avait cette phrase fameuse qui disait, on ne repousse pas l'obscurité avec des bâtons. On repousse l'obscurité avec la lumière. Ça, c'est la phrase du Baal Shem Tov. D'accord? T'as entendu ce qu'on a dit? Il a dit, le Baal Shem Tov disait, on ne repousse pas l'obscurité avec des bâtons, on repousse l'obscurité avec de la lumière. Donc ça, c'est un peu ce qu'on dit au Benoni. On lui dit, ne commence pas à te battre. Commence pas à vouloir dire, non, mais je vais faire ci, je vais faire ça. Et pourquoi j'ai eu une avéra dans la tête? Ne te bats pas. Allume la lumière. Quand tu vas allumer la lumière, ça même déjà, le travail se fait à ta place. Donc dans les mots. Pirouche. Kemosha or yeshlo, je relis deux lignes. Kemosha or yeshlo itron ou shlita memshala la chosher. De la même manière que la lumière a un avantage naturel. Ouais, c'est comme dans les matchs, là, d'accord? Il y a des gens, ils arrivent, c'est une star. Directement, il arrive, il n'a même pas commencé à jouer, c'est fini, il a déjà gagné. Tu comprends? Il n'y a même pas de guerre. Donc, la même chose. Quand tu allumes la Torah, hein, dès qu'il vient dans la piste, c'est fini. Il y a même pas, dans le match, comment on appelle le piste? Comment on appelle le stade? D'accord? Le terrain, ouais. Il y a même pas de guerre. Donc, chez Me'at Or Gashmi de Chéar Bemina Rocher, que peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité, que l'obscurité est repoussée automatiquement, sans guerre, car pareil, nitre mi meila sirlu tarbe shel klipa vistrachara shebichal lasmani, ki ma'amar rabotenu ela imken nichnas bo ruach shtut mipnei achochma shebenefesh elokit shebemoach. Il dit finalement, ça c'est une notion qu'on va expliquer dans le chapitre 18. Finalement, c'est quoi une avéra? Une avéra, c'est un esprit de folie. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, un juif au fond de lui, il veut pas fauter. Est-ce que quelqu'un veut fauter? Hein, Michael, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'un juif veut fauter? C'est sûr que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un esprit de folie. il a eu comme une sorte de grande obscurité qui lui est venue. D'accord? Donc, il te dit, ne négocie pas avec l'obscurité. C'est comme si tu as une personne, par exemple, qui est pas bien. Il est pas bien, il est down, comme on va dire en français. Il est pas bien. D'accord? Il est pas bien, il a pas le moral. Si tu vas venir commencer à discuter avec lui, tu comprends, c'est pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'as pas le moral, on va discuter. Tu dis, le moral zaké, tu dis, c'est pas comme ça que ça marche. Rien qui a pas le moral, ne commence pas à discuter avec lui pourquoi il a pas le moral.
Tu t'amènes,
sors-le. Sors-le. Amène-le prendre un café, amène-le prendre de l'air. Et le peu de lumière qu'il va avoir, tout de suite, ça va repousser l'obscurité. Ça sert à rien de se battre avec l'obscurité. Faut pas se battre avec, il faut sortir et amener de la lumière. Et automatiquement la lumière et le bonheur repousse l'obscurité.
Ouais, t'as quelqu'un qui fait une avéra pour se venger.
Non, mais ça, c'est...
D'accord, bon, ça c'est des cas particuliers. Et d'ailleurs, c'est une technique, vous savez, c'est une technique qu'utilisent beaucoup les psychologues, d'accord? C'est une technique qu'utilisent beaucoup les psychologues, comme par exemple, vous avez des gens qui viennent se plaindre des problèmes de Shalom Bayit. Ils viennent se plaindre, ils disent, voilà, je m'entends pas avec ma femme. C'est une technique qu'ils font tous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, essayez de trouver une qualité cachée à votre femme. Vous n'êtes pas marié pour rien avec elle, quand même.
Il n'y en a pas!
D'accord?
Il n'y en a plus là.
Alors, donc, on lui dit, essayez de trouver une qualité. D'accord? Et non, c'est sérieusement, j'ai entendu ça de plusieurs personnes. Et pas que dans le monde juif, mais dans le monde goy. D'accord? Et lui dit, essayez de vous concentrer sur une des qualités de votre femme. Et concentrez-vous sur ça. Et le fait même que tu te concentres sur ça, et tu essayes de amène-lui un bouquet de fleurs, même si tu la supportes pas. C'est-à-dire le fait même d'essayer d'amener un peu de bonheur, d'amener un peu de lumière, d'accord? Eh bien, cette lumière peut repousser beaucoup l'obscurité. Parce qu'à force de se battre, l'obscurité ne repousse pas l'obscurité. Parce que à un moment, il faut comprendre que, de toutes les façons, chacun aura raison. Donc, ça ne sert à rien de se discuter. Ça ne sert à rien de toute façon. Ça,
pourtant,
Kadosh
Baruch Hu, par intermédiaire de Moshe Rabbeinu, quand il fait vouloir venir d'Israël, il leur dit, voilà, je vous ai donné deux chemins, la vie et la mort, vous choisirez la vie. Ou qui repousse l'obscurité par l'obscurité.
Non?
Oui, par la mort.
Pas du tout.
Il leur dit, faites attention si vous ne choisissez pas.
Non, il leur dit, je vais donner la mort et la vie, et vous choisirez la vie. Donc, mais ça veut dire, on n'est pas en train de lui dire.
On les menace.
Non. On n'est pas en train de lui dire, attention, la mort. Non. Il lui dit, il y a la mort, il y a la vie, tu vas prendre la vie, et l'essentiel de la Torah, on parle du positif. Voilà comment faire le positif, voilà comment faire la vie. Il y a des remontrances quelquefois, parce qu'il faut des remontrances, mais la majorité de la Torah, c'est du positif. Parce que une personne doit être occupée, sa tête doit être occupée principalement par du positif, pas par du négatif. D'accord? Sinon, ça marche pas. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est chez tous les courants. D'accord? Je sais pas que chez Chabad. Et même, je connais, même, j'ai des amis qui sont dans d'autres courants lituaniens, etc. Dès qu'une personne, il vient voir le Rav, il dit, Rav, je suis pas bien. Le Rav, il lui dit, viens. Ouvre ta Gemara. Comment ça, tu dis la Gemara? T'as envie de dire, mais quel rapport à la Gemara maintenant? Il dit qu'il est pas bien. Quel rapport à la Gemara? Où la Gemara maintenant? Il est pas bien, le bonhomme. Parce qu'on est conscient, que un peu de lumière, un peu de bonheur, il va étudier la Gemara, il va kiffer un petit peu et hop, ça va repousser l'obscurité.
C'est valable même en dehors de la.
Dans tout, c'est valable dans tout ça.
Donnez une anecdote. J'ai un ami qui est allé à un moment au cours de Rav Benichou le mardi soir. Il me disait, à chaque fois que j'ai un problème, soit dans mon travail, soit avec mes enfants, soit ma femme, quand je viens à ce cours-là, j'entends le cours, il me donne la réponse. Et je l'applique. Pas de manière aussi rigoureuse, il attaque, bien évidemment, il l'applique. Et il s'est rendu compte comme ça qu'au niveau de ses relations, au niveau boulot, ça allait beaucoup mieux. Avec ses enfants, ses neveux, certains, etc.
Donc ça veut dire qu'un peu de lumière repose beaucoup d'obscurité.
Il serait allé à Carrefour.
Voilà. Ok. Oui.
Alors quelqu'un qui fait des journées en yeshiva, a dit la Gemara, le Chumash, il n'a pas de bonnes.
Non, j'ai pas dit ça. Non, il a été ça aussi. Tout le monde a été ça. Non, il peut avoir les tsars qui l'attaquent aussi. Parce que le tsars, c'est quoi? Vous entendez la question de Serge? Serge pose une bonne question. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est toute la journée en train d'étudier la Torah, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas dit tsars? La réponse est non, bien sûr que non, bien sûr qu'il a dit tsars. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'avéra? L'avéra, c'est un esprit de folie. C'est-à-dire que des fois, t'as un truc qui te prend, c'est pas ce qui t'arrive.
Même en pleine,
et c'est, ben oui. Qu'est-ce que tu crois? Des fois, par exemple, t'es en train d'étudier la Torah, et t'as un esprit de folie qui dit, viens, on se met à discuter maintenant.
Ah oui,
de quoi? De pas forcément, d'autre chose, de tout et de rien. D'accord? Donc, c'est un esprit de folie. Et il faut se battre pour recommencer à étudier.
Il y a un truc que t'as dit Shabbat, on n'a pas répondu à ça.
Oui, je rends pas au départ dedans encore. C'est après ça. Après, dans la suite. C'est pas...
Parce que là, ouais, la contact... j'en ai reparlé à Shalom Cohen dimanche. On a fait un petit ensemble. Il m'a dit, j'ai vu une sira à ce sujet. Je me suis arrêté à la première page. J'ai dit, je suis pas à la hauteur pour étudier la suite.
C'est un volume 5, écoutez sira. Bon, on en parlera si tu veux. C'est dans la suite du Tania. Ok. Donc... il dit, donc il explique ici, Mipne, Arochma, Sheben Nefesh, Aelokit, Sheba Moar. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans le Moar, dans le cerveau? Dans le cerveau, il y a une capacité extraordinaire, qui est la Chorma de l'âme divine. Et cette Chorma de l'âme divine, quand tu te mets à étudier la Torah, ça a la capacité naturellement d'écraser le mal. Donc il n'y a rien de mieux qu'étudier la Torah. C'est pour ça que la Gemara dit comme ça. Elle dit que si une personne, il a mal à la tête, il a étudié la Torah. Si une personne, il a mal à son corps, qu'il a étudié la Torah. Alors t'as envie de dire, la Gemara dit comme ça. Alors j'ai envie de dire maintenant, s'il a mal à la tête, il va étudier la Torah, ça va lui donner mal à la tête. Comment ça marche? D'accord. D'où vient le mal de tête? D'où vient le mal de tête? C'est la question qu'on doit se poser. Comment tu peux dire que si une personne a mal à la tête, il va étudier la Torah? Mais la Torah, il faut de la tête pour étudier la Torah. Comment il va étudier? Parce que, est-ce que vous avez remarqué des fois qu'on a mal à la tête, et tout d'un coup t'as un coup de fil qui arrive, etc., un truc important, et tout d'un coup t'oublies que t'as mal à la tête? Comment c'est possible? Si le mal à la tête c'est quelque chose qui est physique, normalement rien ne peut le repousser. Et tu oublies que t'as mal à la tête. Après, tu te rappelles, 3 heures plus tard, tu dis, mais mince, j'avais mal à la tête, ça fait 3 heures, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc c'est psychosomatique.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'où vient mal à la tête, Michael?
Je sais pas.
Hein? D'où vient le mal de tête? Le mal de tête, c'est psychologique.
Alors ceux qui ont des migraines, c'est
bien sûr, c'est tout le temps psychologique. Non, il y a des migraines maladives, ça arrive.
Mais d'accord, le psychologique finit par...
Je parle d'une migraine, ça nous arrive. Combien de fois ça arrive? Tu as là, tu as mal à la tête, tu sors, tu prends de l'air, même pas des fois, tu reçois un coup de fil, ta tête est occupée par autre chose et tu oublies que tu as mal à la tête. Et ça, c'est la Gemara qui le dit. La Gemara a dit, celui qui a mal à la tête, qu'il a étudié la Torah. Celui qui a mal dans son corps, qu'il a étudié la Torah. Parce que très souvent, c'est des choses psychologiques, c'est une sorte d'obscurité qui vient sur moi. Et par le fait que je viens et que je rajoute de la lumière, et ben cette lumière peut repousser l'obscurité.
Le mal de tête que tu parles là, c'est un mal de tête...
pas maladif.
Non mais d'accord, mais c'est un...
Ça c'est le vin.
Tu perds du... C'est un véritable mal.
Oui, ou alors, le bonhomme il a mal à la tête. Okay. Il en peut plus.
Celui qui prend un Doliprane ou n'importe quoi et le mal de tête il est passé.
Non, c'est, s'il a un mal de tête, c'est qu'il y a un mal de tête. Seulement la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce mal de tête? Est-ce que tu te bats avec lui ou est-ce que tu vas faire autre chose?
Je ne me bats pas, je prends de l'iprane.
Très bien, bon. Moi aussi. Pas de problème. Tout le monde prend de l'iprane. Mais tu vois bien que des fois, on arrive à repousser un mal de tête simplement en s'occupant à faire autre chose. On le voit clairement, ça, dans la vie.
Oui, c'est moins souvent que le l'iprane.
Tu as raison. Parce que c'est plus difficile. C'est difficile de se concentrer quand j'ai mal à la tête. Moi, tu me dis où la Gemara, alors j'ai mal à la tête. Je dis, attends, je vais dormir.
Non, je vais pas pouvoir.
Oui, tu dis, je vais pas pouvoir. Alors qu'en vérité, quand tu te retiens 5 minutes, etc., ça remarre. Ça redémarre. Ben, c'est la même chose. Quand tu as le Yitzhara qui t'attaque, qui te met de l'obscurité comme ça dans ta tête, le fait même de se forcer à étudier la Torah, eh ben, ça même, ça peut écraser l'obscurité, mais d'elle-même, sans combat, sans rien. Voilà pourquoi la meilleure technique du Benoni, quand il veut repousser une pensée tordue, il sort dans la rue, une pensée tordue, c'est quoi? Il pense à une pensée de Torah.
Torah, matin, midi.
Le Rav Nissan Nemanov, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brunois, il disait toujours à ses élèves, il leur disait, quand vous partez dans la rue, il faut toujours avoir dans votre tête des mots de Torah, des mots de Tfilah qui sont par cœur dans la tête. Vous savez quoi? Et il leur disait même plus que ça, il leur disait, répétez-les constamment. Comme ça, dès qu'il y a un truc qui... la Torah, ça écrase tout ça. Seulement, c'est pas facile. Parce qu'il faut être là constamment, à se reprendre, etc. C'est pas facile. Mais ça, c'est le rôle du Benoni. Rappelez-vous ce que j'ai dit à cette manière, que le Rav Nissan Nemanov, pour nous, c'est l'exemple, c'est le Rav Nissan qui a dit que c'est l'exemple d'une personne qui est Benoni. C'est pour ça que je prends cet exemple-là.
Alors, il y a pas du périple, j'ai eu comme ça et je me suis mis à dire le télé, mais à la fin j'ai raté les.
Et pas de problème.
Non, mais c'était mieux que tu me sors plus tard.
Asher, Retsona, Limshol, Levada, Ba'ir. Donc, quelle est la volonté de l'âme divine? La volonté de l'âme divine, c'est de maîtriser uniquement elle seule, Ba'ir, la ville. Donc, la ville, c'est le corps. Ou les Iklabej, je vais vous chercher à Anal Bhol, la Gouf Krulo Kanal, chez Marchavadi Bourmasse, chez Tarek, Mizotatora, Kanal. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je résume, ce qu'on est, le thème du cours d'aujourd'hui, si on pouvait résumer en un mot, dans le cours d'aujourd'hui, on a parlé de comment fait le Benoni. Comment fait le Benoni, bien qu'il a des pulsions, comment il fait pour ne pas, pour se retenir, ne pas fauter? La clé de la réponse, c'est quoi? 5 mots. Moar, 4 mots. Moar, Shalit, à la lèvre. Le cerveau domine le cœur, betul dato, par définition. C'est-à-dire que le Benoni,
comme il a son cerveau qui domine son cœur, alors automatiquement, il peut se retenir. Alors qu'est-ce qu'il fait concrètement quand il a une pensée tordue? Il décide de ne pas y penser. Très bien, mais comment il fait pour ne pas y penser? Il va essayer de penser à autre chose, et s'il peut penser à la Torah, encore mieux. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est comme la lumière, qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Alors juste deux secondes, prévu la semaine prochaine. Néanmoins, nous quand on lit tout ça, on a envie de dire, mais celui-là c'est un tzadik.
Oui, mais il n'est pas tzadik.
D'accord. Mais il n'est pas tzadik.
Mais il n'y a pas la ficelle.
D'accord. Mais il n'est pas tzadik. Pourquoi il n'est pas tzadik? Pourquoi il n'est pas tzadik? Alors on va voir. Ça on va développer la semaine prochaine, d'accord? On va développer la semaine prochaine. Pourquoi il n'est pas tzadik? Alors la semaine prochaine, c'est pas sûr qu'il y a cours. Ça dépendra de voir pour les billets d'avion. Parce que mardi, je serai à New York. Je ne sais pas encore si je voyage lundi après-midi ou si je voyage mardi matin. Je vous tiendrai au courant par SMS, si Dieu veut. En tout cas, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, c'est pourquoi. Pourquoi il est quand même appelé? Pourquoi il est quand même appelé?
Dans l'avion. Pour ceux qui font le voyage avec.
Voilà. Dans l'avion. Deux, trois. Deux, trois
qui voyagent. Moi, je m'occupe du guinou, je vais oublier.
Donc, on va expliquer pourquoi il fait pas, pourquoi il est pas appelé tzadik. Et surtout, dernière chose que je voudrais parler aussi, c'est, étant donné que le Benoni, il a un combat qui est très difficile, on va lui donner des techniques. On va lui donner des techniques. D'accord? On va lui donner des techniques pour lui expliquer comment faire en sorte pour que le Shabbat, d'accord, va laisser des traces sur toute la semaine. Pour que la tfila du matin laisse des traces sur toute la journée. Pour que son étude de la Torah, il faut des techniques pour ça. Parce que finalement, c'est ça ce qui se passe. On vient à un cours de Torah, on vient à un cours de Tanya, tout est beau, tout est magnifique. Ouais. Mais après, c'est pas forcément facile dans la vie de tous les jours. Donc ce qu'il nous faut maintenant, on a compris que théoriquement, on peut le faire. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Théoriquement, tu peux le faire. Maintenant, dans la pratique, on n'arrive pas. Donc il nous faut des techniques pour essayer de continuer, d'accord, cette, on va dire, l'échauffement et le, on va dire, pas seulement l'échauffement, on va dire l'enthousiasme qu'on a eu dans un cours, l'enthousiasme qu'on a eu dans la prière, comment faire pour le continuer dans la journée, pour faire en sorte qu'il continue, qu'il ait un impact dans la journée. Exactement. Donc là, on a un vrai problème, même commercial, hein. Comment faire en sorte pour que j'ai vendu le produit maintenant, mais il faut que dans deux mois, il pense à moi. Comment faire? D'accord? Il y a des techniques très claires, que vous pourrez appliquer dans ce que vous voulez. Moi, je vous ai expliqué dans la Torah. Il expliquera clairement la semaine prochaine comment faire pour faire en sorte que le Benoni, il a des traces qui restent pour le jour d'après, la semaine d'après, les heures d'après. Voilà. Il y avait des questions, oui.
Une avéra, c'est, en fait, c'est aller à l'encontre de la volonté des Kadosh
Baruch
Hu. Oui. Cette volonté, elle est dans la Torah, les Chachamim, etc. D'accord? Ce qui va nous protéger de la avéra, vous avez vu, en tout cas, c'est la Torah.
La Torah.
En plein matin de Torah, Kadosh Baruch Hu doit demander à Moshe Rabbeinu d'aller dire au peuple de ne pas monter sur la montagne, c'est-à-dire de transgresser en plein à Aseret HaDibrot, alors que Kadosh Baruch Hu est sur la montagne en train de donner la Torah, ils sont tous en train d'étudier. Kadosh Baruch Hu a besoin d'aller dire à Moshe Rabbeinu, dis au peuple de ne pas monter, comme si il avait peur que le peuple transgresse.
D'abord, ils n'étaient pas en train d'étudier.
Si.
Ils n'étaient pas en train d'étudier, ils étaient en train de recevoir les 10 commandements, ils n'ont pas compris encore.
C'était un cours donné par Kadosh Baruch Hu.
Oui, bon. Alors, mais ils avaient encore la libre arbitre, ils avaient encore des pulsions, ils avaient une pulsion positive de vouloir monter.
Dans cet instant-là, ouais, qui est l'instant, on va dire, c'est le summum, ils peuvent pouvoir vouloir transgresser la
Torah. Ça rejoint la question de Serge, parce que même si une personne qui étudie la Torah tout le temps, rien ne lui empêche d'avoir des pulsions positives ou négatives.
Oui, mais la Torah doit empêcher
non,
de passer à
la Torah. Non, la Torah c'est un outil que tu peux utiliser. Non, ça n'empêche pas. C'est un outil comme la lumière qui repousse l'obscurité. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas au tac au tac.
D'accord,
bien sûr.
C'est
un outil. C'est un outil qui peut t'aider. On te dit au Benoni, tant qu'à faire, puisque tu as une autre pensée pour repousser la pensée, utilise une pensée de Torah. Mais ça ne veut pas dire que si je.
Sûr que ça va marcher.
C'est jamais sûr. La seule chose qui est sûre qui va marcher, c'est ma volonté. Si je décide de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Il n'y a rien d'autre qui marche. Rien. Ça, c'est le seul outil que Dieu nous a donné. À ce moment-là, il va nous donner des techniques. Comme penser à un Dvar Torah. Comment faire pour que l'enthousiasme de la tefila va rester sur la journée. Ça, c'est des techniques qu'on doit avoir. C'est des techniques. Mais en vérité, en théorie, comment il gagne? Parce qu'il a la volonté. Parce qu'il a le cerveau qui domine le cœur. La volonté du cerveau qui domine le cœur.